Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un bonheur de le retrouver, mon invité d'aujourd'hui, parce qu'il nous fait voyager, parce que surtout on apprend beaucoup de choses avec lui. C'est une érudition, c'est une culture à lui tout seul. Et puis sa passion de l'Égypte, eh bien, c'est la passion également que l'on a depuis l'enfance, depuis qu'on est allé à la rencontre de l'Égypte à l'école. Et puis avec lui, on apprend l'histoire de ces hommes et de ces femmes non oubliés, mais qui nous en apprennent beaucoup et qui pourront sans doute nous en apprendre encore beaucoup. Alors aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un personnage que moi j'ai trouvé très attachant, avec une histoire très très intéressante. Et vous allez voir et surtout entendre que mon invité d'aujourd'hui y a mis beaucoup de cœur dans son livre. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage, encore et toujours, d'accueillir Monsieur Christian Jacques. Bonjour.
Bonjour Claudine Bugat.
Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes. Je dis de nouveau parce que vous êtes fidèle à l'émission depuis plus de 10 ans maintenant et que de belles histoires vous nous avez contées. Alors, aujourd'hui c'est pour un livre, La mission secrète de Sinoué l'Égyptien aux éditions IXO. Alors, je le disais hors micro, j'ai le sentiment que vous y avez mis beaucoup de cœur dans cette histoire et on va en parler longuement. Moi ce que j'aime c'est que dans ce livre on retrouve le vieux. Il est toujours là, voilà, inénarrable vieux, pour notre Sinoué, l'Égyptien. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui nous vaut, comment dirais-je, l'écriture et l'histoire de ce Sinoué, l'Égyptien.
Alors, vous savez, ce sont des souvenirs finalement très anciens.
Oui.
Parce que, bon, j'ai appris les hiéroglyphes... quand j'avais, disons, 16 ans, 16-17 ans à peu près, il y avait à cette époque-là, j'étais bien entendu en train de passer mon bac, mais j'étais déjà passionné par l'Égypte ancienne, mais j'avais donc acheté une grammaire des hiéroglyphes d'un certain monsieur Gustave Lefebvre, qui est toujours d'ailleurs... en activité, cette grammaire, pas lui malheureusement. Et puis, quand j'ai eu enfin le bonheur de pouvoir accéder à l'université à un premier certificat d'égyptologie, la première des choses, évidemment, pour un égyptologue, c'est d'apprendre à lire les hiéroglyphes. Alors, je savais déjà à peu près les lire, mais le premier texte qui était proposé pour les examens, je crois que c'est d'ailleurs... toujours un petit peu le cas quand on démarre, ça s'appelle « Les aventures de Sinoué ». Alors, pourquoi est-ce qu'on prend ce texte-là pour apprendre les hiéroglyphes? Parce que c'est un chef-d'œuvre de la littérature égyptienne qui date d'il y a à peu près 4000 ans.
D'un auteur anonyme?
Alors, c'est un auteur anonyme, comme très souvent d'ailleurs dans les textes anciens. Et c'est une histoire absolument incroyable. C'est-à-dire que, bon, d'abord, c'est très bien écrit, c'est une langue, comment on pourrait dire, classique.
Ouais.
Voilà. Qui est donc moins difficile, à la limite, que la langue des textes des pyramides plus anciens, qui ne ressent, enfin, il y a toujours la même structure de langage, de grammaire, etc. Mais c'est un roman passionnant. Et puis voilà que, je ne sais pas, il y a à peu près 2 ans, je relis les aventures de Sinoué et je me dis, mais dans le fond, il faut que j'écrive cette histoire, parce que c'est réservé à quelques techniciens. Tout le monde n'apprend pas les hiéroglyphes. Bon.
Non. Je l'apprends, je ne savais même pas que vous les lisiez, donc voilà, c'est bien.
Voilà, non, ça c'est vraiment la base de tout, parce que sinon on peut déchiffrer aucun document.
J'imagine.
Et justement, dans tous mes livres, il y a énormément, par exemple, de dialogues qui sont des traductions de l'ancien égyptien que, par exemple, que j'ai lu sur les murs d'une tombe, sur les parois d'un temple, dans un papyrus. En fait, je travaille avec beaucoup, beaucoup de textes égyptiens. Et là, je me suis dit, dans le fond, il paraît que je suis un conteur à peu près honnête. Enfin, c'est-à-dire que
très honnête.
Les gens aiment bien les histoires que je raconte.
Oui.
Et je me suis dit, je vais rendre un grand hommage à la fois à l'Égypte, bien sûr, à ce prédécesseur anonyme, oui. auquel je rends hommage d'ailleurs au début du livre.
Un romancier.
C'est un romancier. C'est, oui. c'est le premier romancier d'espionnage de l'histoire.
Incroyable, incroyable.
Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais le réécrire avec mes mots d'aujourd'hui, avec ma sensibilité d'aujourd'hui. Mmh. Bon, j'ai pensé à, par exemple, vous savez, à ce musicien que j'écoute évidemment tous les jours, qui est Mozart, et qui, de temps en temps, se permet de reprendre oui. des mélodies oui. De Bach, mmh. D'autres auteurs, qui les intègrent, mmh. et c'est prolonger une œuvre, c'est faire quelque chose. Et là, en plus, figurez-vous que cette histoire de Sinoué a donné naissance à un nombre de commentaires, de critiques, parce que les uns pensent que c'est un gentil, les autres un méchant. Pourquoi a-t-il agi comme ça? Et donc, moi, j'ai donné mon interprétation à partir d'une analyse historique assez fouillée, mais ça, vous savez, je crois que dans une œuvre, quand un lecteur ou un auditeur, il n'a pas besoin de savoir tout le travail qu'il y a derrière. L'important, c'est qu'il plonge dans l'œuvre, qu'il y prenne du bonheur, et puis qu'il se laisse entraîner, je dirais, par...
Ça dépend du lecteur. Voilà. Ça dépend du lecteur. Moi, je suis une curieuse invétérée, alors...
Je vous révèle les coulisses.
Voilà, c'est ça. Et donc ce Sinoué, alors, c'est un espion Sinoué qui va être missionné pour découvrir alors des bandes qui voudraient s'infiltrer en Égypte pour prendre plus ou moins le pouvoir. Alors je vais déformer sans doute le nom. C'est le roi Amenemhat.
Amenemhat.
Ah, Amenemhat. Il manquait. J'avais une lettre qu'il ne fallait
voilà,
pas.
C'était voilà, c'était presque bon.
C'était presque bon. Et donc qui va le missionner. Mais alors sa mission va pas être très facile à ce pauvre Sinoué, parce que on va l'accuser de vouloir empoisonner le roi. D'ailleurs, les amis proches vont le trahir. Mais malgré tout, il va être auprès d'une femme assez extraordinaire qui va quand même le soutenir. Mais c'est un personnage fascinant parce que, comme vous dites, on ne sait pas s'il est bon, s'il est pas bon, s'il est méchant. Mais en tout cas, il va tenter de s'acquitter de sa mission. En tout cas, il va essayer. Et ça va pas être facile.
Ben non, si vous voulez, apparemment, au départ, tout se passe bien.
Oui.
Il est chargé de la sécurité
du roi,
du pharaon.
Du pharaon, oui.
C'est donc un notable, oui. d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, on dirait un chef des services secrets.
c'est ça.
Et puis, effectivement, nous avons un récit selon lequel on a tenté d'assassiner le roi. Bon, ce qui en Égypte est une...
Oui, c'est coutumier.
C'est quand même très très rare pendant les plus de 3 millénaires. Oui. Ça ne s'est pas passé souvent.
Mais c'est arrivé.
Là, il s'est passé quelque chose. En plus, à une époque qui est absolument remarquable, qu'on connaît. On ne la connaît pas très bien, cette époque, pour une raison simple. C'est ce qu'on appelle le Moyen Empire.
Oui, oui.
Donc, entre, si vous voulez, pour bien situer, entre le grand âge des grandes pyramides,
d'accord.
que tout le monde connaît,
oui.
et puis... le nouveau grand âge qui va être Karnak, Luxor,
d'accord,
la Vallée des Rois.
Oui, il y a un espace assez large entre les deux.
Oui, il y a un espace très large entre les deux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on connaît mal cette époque? C'est parce qu'il y a eu des temples absolument sublimes, mais il n'en reste que deux, car les pierres ont été réutilisées ensuite pour reconstruire le nouveau temple. Ce qui fait qu'on a assez peu de témoignages, mais en revanche, on a beaucoup de textes, beaucoup de littérature. On appelle ça presque l'âge d'or de la littérature égyptienne, dont l'aventure de Sinoué.
Oui, mais c'est vrai qu'Amenemhat, on le connaît pas.
Alors, Amenemhat, le grand public ne le connaît pas. Il y a deux grandes dynasties à cette époque-là, ce sont les Amenemhat. Alors, le mot a l'air compliqué, mais en fait, pas tellement. C'est Amon est en avant.
Oula,
voilà.
D'accord.
Donc le dieu Amon, le dieu secret, le dieu bélier,
d'accord.
le dieu du vent, est en avant.
D'accord.
Voilà, c'est ça son nom. Et il y a donc toute une lignée, il y en a plusieurs, et celui-là était assez brillant, il a vécu vieux. Alors on ne sait pas, puisque est-ce qu'il est mort, assassiné vraiment, on le suppose. Bon.
Ouais.
Et Notre Sinoué, qui normalement est assuré de sa protection, en fait est abusé. Il est trompé. Vous savez, ça arrive dans les services secrets parfois qu'il y ait des manipulations.
Ah bon?
Et donc, il avait
mission,
qui est une mission, je dirais, presque éternelle de l'ancienne Égypte.
Ouais.
Depuis la préhistoire, il y a deux problèmes. D'un côté, vers l'ouest, vous avez la Libye.
Oui.
Et entre les Libyens et les Égyptiens, ça ne s'est jamais bien passé.
Mm-hmm.
Ils ne s'entendent pas du tout.
Oui.
Et puis, vers le nord, vous remontez vers ce qui est aujourd'hui Israël,
la Palestine
mm-hmm. et la Syrie. Et mm-hmm. là, ce grand couloir mm-hmm. a toujours été le couloir des invasions.
Oui.
Et évidemment, que ce soit les Libyens ou les Syriens, ils n'ont qu'une envie, c'est d'attaquer le pays le plus puissant,
l'Égypte,
le plus riche, le plus opulent, et de s'emparer de toutes ces richesses.
Mm-hmm.
Donc, le premier travail de sécurité au niveau de l'État égyptien, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une tentative d'invasion qui est en cours, qu'il n'y a pas un complot qui est en train de s'organiser, qu'il ne va pas y avoir une déferlante.
Mmh.
Et c'est la mission que donne le roi à Sinoué.
Mmh.
Problème. Effectivement, le roi meurt, et dans des conditions étranges.
Mmh.
Et donc, voilà notre Sinoué,
qui
non seulement n'a pas pu correctement le protéger, mais en plus va être accusé d'être l'organisateur du complot. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Il prend la fuite.
Oui.
Mais, d'une certaine manière...
On va pas tout raconter. Parce que
c'est
un policier, hein, c'est un thriller. Hein,
finalement.
Et oui.
Mais il se dit, perdu pour perdu. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché, dans le fond.
Oui.
Parce que je crois que dans l'histoire de l'humanité, ça a dû jouer plusieurs fois.
Mmh.
Il se dit, perdu pour perdu. Si je reste, de toute façon, je ne vais pas pouvoir prouver mon innocence.
Ça, c'est clair, oui.
Et je vais être accusé. Et je vais être exécuté.
Oui.
Donc, j'aurais échoué
deux fois
sur tous les plans.
Oui.
Maintenant, si je m'en vais, au fond, je vais essayer de remplir ma mission. C'est de savoir si vraiment il y a quelque chose qui se prépare de très grave contre mon pays. Seulement, je suis tout seul.
Eh oui.
Alors, vous savez, j'ai pensé un peu même à des films, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Silencieux avec Lino Ventura,
oui,
par exemple,
oui.
Où tout à coup, un homme se retrouve tout seul.
Tout seul, pour résoudre les choses. Oui.
Bon, sa vie est en danger à chaque seconde.
Oui.
Il n'est entouré que d'ennemis. Lui, il dit la vérité.
Il peut se fier à personne.
Il ne peut se fier à personne. Lui, c'est un être vrai.
Oui.
Et il y va. Bon, alors j'avoue que j'ai été assez passionné à l'écrire, c'est vrai.
Oui. Ah oui, ça, on sent. Mais néanmoins, il a auprès de lui une femme qui est assez extraordinaire.
Oui.
Mais de toute façon, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Hein.
Oui, alors ça, vous avez totalement raison. J'approuve absolument ce proverbe. et effectivement, cet amour très profond d'une femme extraordinaire. Alors, c'est aussi très intéressant pour moi de montrer le rôle de la femme en Égypte ancienne, parce que...
Elles avaient des rôles prédominants. Il y a eu de grandes femmes. Même auprès des pharaons puissants, on s'aperçoit que leurs épouses l'étaient tout autant aussi.
Ah, très important.
Oui.
D'ailleurs, vous savez qu'il ne peut pas y avoir de roi sans la grande épouse royale.
Eh oui. Mmh.
Ce que nous appelons, nous, pharaon, ce qu'on peut traduire par le grand temple, la grande demeure, la grande maison, est obligatoirement composé d'un homme et d'une femme, du roi lui-même et de la grande épouse royale, qui est d'ailleurs chargée la plupart du temps de la diplomatie.
Oui. Mmh. Et de la culture aussi, la diplomatie et la culture aussi.
Et la culture.
La culture, oui.
Ce qu'on appelait la maison de la reine, c'était l'éducation donc des jeunes femmes, à lire, écrire, danse, musique, art. Effectivement, le rôle de la reine est absolument essentiel.
Mais ce qui est important, c'est de s'apercevoir que finalement, le rôle de la femme était important. C'est-à-dire, on ne la cantonnait pas simplement à une épouse et une mère. Et il fallait qu'elle save la musique, la lecture. Il y avait une érudition. La femme était vraiment, moi, j'ai presque envie de dire, l'égale de l'homme. Enfin, sur beaucoup de points, il fallait qu'elle soit... c'était pas une potiche.
Ah, pas du tout,
eh oui.
Pas du tout. Donc, vous pouvez tout à fait dire l'égal de l'homme.
Oui.
D'abord, elle a un très beau titre qui nous est resté, qui s'appelle la maîtresse de maison.
La maîtresse de maison, ça a tout son sens dans l'Égypte ancienne.
Ah, oui. C'était très important. Et il y a un texte d'un vieux sage qui dit à quelqu'un, « Ne te permets pas de critiquer ton épouse, c'est elle qui régit tout à la maison, alors tais-toi et obéis-lui. »
Voilà. Encore le vieux, encore un vieux. Voilà.
Ah, encore un vieux qui est très très bien. Bon, je vous rappelle aussi qu'une femme se marie avec qui elle veut.
Qui elle veut, oui.
C'est elle qui choisit.
Oui.
Qu'en cas de divorce, elle garde de toute façon au minimum 30% des biens,
oui.
Et que si le mari est reconnu coupable d'adultère, de choses de ce genre, bah, elle a la totalité des biens.
Ah, on n'a rien inventé, hein. On n'a rien inventé.
Je crois qu'on a même un peu reculé.
On a même un peu reculé, oui, ça c'est sûr.
Je trouve qu'on a même un peu
reculé. Surtout dans certains pays où, si vous parlez de divorce ou d'éducation des filles,
Je crois que la moitié du monde n'en est pas là.
Oui, oui, on est d'accord.
Et la femme, en plus, pouvait léguer ses biens à qui elle voulait.
Alors dites-moi, dans l'Égypte d'aujourd'hui, on fait une parenthèse rapide, c'est toujours valable?
Ah bah non.
Ah ah.
Ah non, nous sommes sous un autre régime.
Et
non,
oui, on est bien d'accord. Ouais.
L'Égypte est un pays musulman et donc il répond aux lois.
C'était une question facétieuse, mais.
Facétieuse, mais voilà.
Alors donc, notre Sinoué, donc on le dit à côté de cette femme qui va l'aider, il décide de se retrouver seul pour aller face à l'adversité. Mais moi, je l'ai trouvé quand même terriblement courageux parce que c'est quand même pas évident d'être accusé de l'assassinat d'un roi, de se retrouver seul, trahi aussi par les siens, son bras droit ou je ne sais plus qui de toute façon. Mais moi, j'ai trouvé que ce personnage, il est haut en couleur, il est courageux, et je dis bravo à l'auteur qui a créé ce personnage. Mais en même temps, je me suis dit, mais Sinoué, j'en ai déjà entendu parler. Ça, vous savez, ça me parlait au fur et à mesure du livre. Je me suis... Le nom, je ne sais pas, ça me parlait. Est-ce que vous en avez jamais parlé, ou est-ce qu'on a déjà parlé de Sinoué?
Alors, on a parlé de Sinoué parce qu'il y a beaucoup d'années, il est paru un livre qui s'appelait Sinoué l'Égyptien.
Ben donc, c'est ça.
Voilà, d'un dénommé Valtari, et qui a été un roman historique qui a eu beaucoup de succès il y a assez longtemps maintenant, mais qui n'a aucun rapport avec cette histoire, bizarrement.
Ah, d'accord.
C'est pas du tout cette histoire-là, ça se passe à l'époque d'Akhenaton, et c'est plutôt un livre, je dirais pas anti-égyptien, mais pas très favorable, on va dire.
D'accord.
Quoi, voilà.
Ah, ok.
Et donc ça n'a aucun rapport avec la véritable histoire de Sinoué. Il a pris ce nom-là, parce qu'il était un peu célèbre dans la vieille littérature.
Ça veut dire quoi, Sinoué? Ça signifie quelque chose?
Alors, Sinoué, c'est le fils du sycomore.
D'accord.
Et d'ailleurs, c'est un nom très intéressant parce que le sycomore, c'est l'arbre qui est planté, en Égypte ancienne, il était planté à la lisière entre le monde des morts et le monde des vivants. Et c'était dans ce grand arbre qui dispensait une ombre très fraîche et très agréable qu'apparaissait la déesse de la résurrection.
Ah, c'est drôle ce que vous dites, et je refais une autre parenthèse. C'est comme le cynorhodon, qui pour les druides, c'était un petit peu la même façon de faire et de penser par rapport à un arbre.
Voilà. Donc il y a évidemment des cultes des arbres en Égypte, ça c'est très important.
Oui, oui, oui.
Idée reçue, il n'y avait pas de végétation en Égypte ancienne. Alors, c'est une idée complètement reçue. Il y avait des milliers de plantes, de très nombreuses essences. Tout ça a disparu. Mais à l'époque des pharaons, les jardins étaient luxuriants. Il y a énormément d'arbres qui maintenant n'existent plus.
Problème climatique?
Alors, problème climatique et problème culturel.
Culturel aussi.
Parce que avec l'avènement des Ptolémées qui sont des Grecs, et puis après l'invasion arabo-musulmane, tout ce qui est végétation, arbres, demande beaucoup de travail, d'entretien. On a laissé tomber un peu tout ça, si vous voulez. Et par exemple, toute l'irrigation qui était tellement importante en Égypte ancienne, mais qui demandait un travail acharné tout au long de l'année, avec beaucoup de rigueur. C'est parti un petit peu, j'allais dire à volo, ce qui n'est pas la bonne expression en l'occurrence.
Ouais,
mais c'est un peu ce qui s'est passé.
Mais bien des siècles après, d'ailleurs, 15e siècle, lorsque les gens de Byzance ont fui Byzance, quand les Turcs sont arrivés, beaucoup se sont réfugiés en Égypte. Et par la suite, on fait la culture du coton et des rizières. Donc c'était très irrigué, ça devait être propice à cette culture en tout cas.
Tout à fait, c'est à ce moment-là qu'est apparu le coton, qui est un grand mangeur d'eau.
Mais
déjà, il faut que vous imaginiez qu'à l'époque des grandes pyramides, aujourd'hui vous arrivez sur le plateau de Gizeh, c'est désertique.
Je rêve d'y aller.
Et autrefois, c'était des jardins.
Et oui.
Pareil pour le temple d'Hatshepsut à Deir el-Bahari, on voyait à peine le temple tellement il y avait d'arbres, de végétation, de luxuriance. Les anciens Égyptiens étaient des amoureux fous des jardins et des arbres. A beaucoup changé aujourd'hui, ça aussi.
Oui, malheureusement.
Hélas.
Hélas, oui. Alors, Sinoué, alors on va pas dire comment ça va se passer, comment il va s'en sortir, parce que je dis c'est un thriller, hein, c'est un
Oui, c'est
suspense,
vrai.
hein, c'est vraiment. Mais le personnage est attachant. Et puis on sent à travers l'écriture que vraiment vous vous y êtes attaché. Mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au travers de ce personnage, c'est un pan de l'histoire aussi de l'Égypte que l'on rencontre il y a 3 ou 4 000 ans. En fait, c'est dommage que l'auteur soit anonyme parce que en fait, il nous livre quand même des choses importantes et essentielles sur cette période de l'histoire, grâce à Sinoué.
Oui, tout à fait. C'est aussi intéressant de voir comment il
Et
vivait, comment il se déplaçait.
oui. Et puis le rapport politique, la diplomatie,
Absolument.
La justice, enfin, c'est très important tout ça.
Voilà, tous ces sujets-là, évidemment, rentrent en ligne de compte. Et ce qui est très important, c'est de voir effectivement comment un homme seul, calomnié finalement,
Oui, bafoué.
accusé à tort, s'il a en lui, je dirais, une volonté de vivre et puis d'aller au bout de son idéal et de son chemin, et puis au fond de sauver son pays, parce que même étant accusé par ses propres autorités, il veut quand même sauver son pays. Et bon, on ne dit rien sur la suite,
Non. Bien sûr que non.
hein.
Alors, sauver son pays, c'est vrai. Alors, contre l'adversité, contre eux-mêmes, hein, finalement, contre ceux qui dirigent ce pays. Et moi, je me disais, finalement, cet homme-là, il a l'étoffe d'un pharaon. Parce qu'il est sincère, il est authentique. Et son pays, c'est dans son ADN. Son pays coule dans ses veines.
Oui, vous avez raison. Ça, c'est très profond. Et c'est peut-être ce que vous avez senti quand je l'ai écrit, parce que, effectivement, moi aussi, je veux dire un tout petit peu que l'Égypte ancienne coule un
Ah
peu dans
ben,
mes veines, quand
ça
même.
c'est clair, ça on est bien d'accord.
Et que là, c'est vrai, vous savez, vous connaissez, bon, tout le monde connaît la célèbre parole de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Bon, Sinoué,
C'est vous.
oui, forcément, parce que, bon, d'abord, bon, pour personne, la vie, comme on dit, n'est un long fleuve tranquille, hein.
Non.
On a tous des épreuves et des difficultés.
Bien sûr.
Et c'est intéressant on peut s'écrouler, on peut désespérer, on peut, bien sûr, à certains moments, c'est pas brillant, mais il faut toujours qu'il y ait cette petite flamme où on dit, je vais y arriver, je vais y
Ouais.
arriver, je sais pas comment, voilà, je sais pas comment, mais je vais y arriver. Alors évidemment, en écrivant l'histoire, on se coule complètement dans le personnage,
Ouais.
et y a parfois des nuits où, bon, bah, quand j'allais m'endormir très tard dans la nuit après avoir écrit, je me disais, mais il va pas s'en sortir, il va pas s'en
Il va
sortir. Et
pas
puis
s'en
le lendemain
sortir.
matin, allez,
Il
s'en
va s'en
sortir.
sortir, oui. Alors moi, j'ai fait un parallèle au long de la lecture qui s'est peu à peu imposé à moi, c'est-à-dire que j'ai fait un parallèle entre vous et Sinoué. Vous me direz, là, jusque-là, rien d'original. Mais, alors, vous, le chercheur qui fouine, qui cherche, qui recherche, qui cherche la petite bête, le petit détail à comprendre, à apprendre, à instruire. Et lui, finalement, c'est pareil. Il veut comprendre, il va au fond des choses, il va fouiller les choses. Et je me suis dit, il y a ce parallèle, il y a mis de lui dans Sinoué, Christian Jacques, dans la perspective, dans le détail aussi.
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que au fond, il ne veut pas mourir idiot.
Ben non,
Bon,
tant qu'à
il n'en
faire.
est pas question.
Tant qu'à faire,
Il sait qu'il a une chance sur 100, quoi, de s'en sortir, mais c'est très juste ce que vous dites. Il veut comprendre ce qui s'est passé.
Oui.
Bon. Il va comprendre qu'il a été trahi. Il va heureusement comprendre aussi qu'il n'est pas totalement seul, je dirais, parce
Non.
qu'il y a effectivement cette femme qu'il aime. Et puis il y a le vieux qui est pas
Le
non
vieux
plus
qui est là,
inutile, hein. Bon,
avec un V majuscule,
oui,
attention.
pas du tout secondaire,
Non, non.
mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le mécanisme infernal qui a abouti à ce qu'il soit dans cet état-là? Et déjà comprendre, c'est
Oui.
important parce que il va pas encore pouvoir complètement agir contre l'adversité, mais il va pouvoir démonter un petit peu le mécanisme infernal et peut-être donc repousser le malheur.
Repousser
Voilà.
l'adversité,
Voilà.
repousser
Et
le
puis
mal.
alors, une soif ardente de la vérité.
Oui.
Voilà. Ça, je crois que c'est
Oui.
très très important.
Oui.
Moi, ça marque ma vie, très honnêtement.
Ben
La
c'est ce que
vérité
j'allais vous
pour.
dire. C'est
Oui.
vous, ça. Ça, c'est
Ah
vous.
oui, non, là, la vérité pour moi, quelque chose d'absolument fondamental. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas facile à vivre tous les jours, honnêtement.
Je comprends.
Parce qu'on est inondé d'informations et essayer...
Il faut faire le tri.
C'est vrai dans tout ce qu'on dit.
Ah oui, ça, c'est... je me faisais exactement la réflexion quand j'ai eu le malheur ce matin d'écouter les infos. notamment sur l'Ukraine, vous voyez, par exemple.
Qu'est-ce qui est vrai ?
Ouais. On est bien d'accord.
Et je me pose 10 fois par jour la question, avec mon épouse, à table, quand on dit, mais, voilà, qui croire ?
Qui croire ?
Qui croire ? Quel élément peut nous permettre de dire, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai ?
Mais oui.
C'est pas simple. Hein.
Non, c'est pas simple. Et alors, je me suis dit, mais alors, cet auteur anonyme, est-ce qu'il a écrit d'autres choses ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a d'autres choses ? Voilà, c'est.
Alors, il est évident que malheureusement, par la suite de nombreuses destructions, pillages,
ouais,
etc.,
ouais, j'imagine, ouais.
Nous n'avons pas toutes les œuvres.
De
tout,
des auteurs de ces moments-là, oui.
À ce moment-là. Celle-là a survécu parce qu'elle était lue dans toutes les écoles.
Oui, oui.
Donc, oui, ça n'a pas changé. C'était un roman qui était tellement populaire, c'était un tel best-seller.
Elle était à l'école.
On le lisait à l'école. Et puis honnêtement, c'est passionnant, quoi.
Oui.
C'est une histoire formidable.
Ah, moi, c'est vraiment le thriller. En plus, bon, ça se passe en Égypte, mais c'est très contemporain en même temps.
Ah oui.
C'est très moderne.
Vous pourriez le transposer sans aucune difficulté.
Ah oui, c'est Albert Durand
voilà.
qui fait une enquête. En tout cas, c'est un livre passionnant. Moi, j'étais un peu triste de le terminer. J'ai fait un peu traîner ma lecture parce que j'avais pas tellement envie de finir. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même le finir si je voulais vous en parler avec vous. Mais c'est toujours un vrai bonheur. Vos prochains projets, rapidement, Christian Jacques.
On va aller. Écoutez, il y a une chose énorme qui arrive là, qui est un très gros livre,
oui.
De 500 pages, qui est un essai qui s'appelle La civilisation, enfin c'est l'Égypte pharaonique.
Oui.
Premier tome, un royaume de lumière,
oui.
500 pages avec des illustrations, et c'est un peu mon testament d'égyptologue que je vais écrire en 3 tomes sur
D'accord.
3 années.
Ok.
Voilà, qui est en train de paraître actuellement. Et puis, ben voilà, je vais commencer à réfléchir au prochain roman qui est en train d'arriver.
Bon, en train de mûrir. Eh ben, écoutez, voilà. En tout cas, sachez que vous êtes un éternel invité à ce micro, Christian Jacques.
C'est trop gentil de votre part. C'est toujours une joie pour moi aussi.
La mission secrète de Sinoué l'Égyptien aux éditions Exo. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Merci infiniment. Je vous souhaite de belles choses, une bonne fête de fin d'année. Et puis, on se retrouve dans quelques mois, dans un an.
Écoutez, avec joie, et pour vous aussi, excellente fête.
Merci beaucoup, Christian Jacques. Merci,
merci
beaucoup.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Quant à nous, voilà, de nouvelles aventures littéraires en perspective. Nul doute qu'avec ce Sinoué l'Égyptien, vous voyagerez et allez à la rencontre d'un personnage fort attachant. Merci, bonne journée, à très bientôt.